Bonjour tout le monde. Vous êtes en forme? OK, je suis Emin. Vous connaissez le gars? Combien parmi vous connaissent Emin? OK, vous avez trouvé ça où? Vous l'avez lu dans la Bible? Alors, je suis Emin, c'est suite à une série de personnages bibliques que vous étudiez depuis un certain temps. Emin, c'est un personnage qui est peut-être pas très bien connu. La majorité d'entre vous, peut-être, se sont jamais arrêtés en lisant son nom. Alors, en guise d'introduction, combien se souviennent du message que j'ai donné le 7 janvier sur Samuel? OK? On va faire une petite révision parce que ça fait un peu comme la suite, là. Le thème était « Toute une vie au service de Dieu ». Alors que nous avions noté quelques points marquants de la vie de Samuel, on avait remarqué que la jeunesse de Samuel fut un homme de foi. Samuel était à l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu était importante pour lui. Il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. On avait remarqué le ministère de Samuel, devenu jeune homme dans la trentaine, tout Israël, de Dan jusqu'à Beersheba, reconnu que Samuel était prophète de l'Éternel. On avait sorti 4 points en ce qui concerne Samuel: un homme de responsabilité, un homme de prière, un homme de justice, il fut juge toute sa vie, et un homme organisé. À chaque année, Samuel faisait une tournée qu'il organisait lui-même, puis il n'oubliait personne, il faisait le tour de tous ceux qu'il avait en responsabilité. Sa vieillesse, on avait sorti 7 points qui sont une suite de sa vie, hein. Samuel, toujours en prière, loin de moi la pensée de prier pour vous, d'arrêter de cesser de prier pour vous. Deuxième point, un homme attaché à la parole de Dieu, je vous enseignerai, disait-il. Un homme de droiture, il reprend Saül lorsque Saül fait fausse route. Et un homme de fermeté, on a vu aussi un homme préoccupé par la relève. Lui s'intéressait aux jeunes qui étaient là, et un homme préoccupé à communiquer à d'autres la connaissance et son expérience. Et comme 7e point, on avait vu que c'était un homme désintéressé, un homme qui sort les revers de ses poches, qui dit « Regardez bien, je n'ai abusé de personne d'entre vous. » Alors, en résumé, on avait vu qu'après la mort de Samuel, que toute une vie au service de Dieu, alors qu'il était jeune, alors qu'il était à la force de l'âge, et alors qu'il était vieux. Ça va? Vous avez eu un message en 6 secondes que j'ai donné la dernière fois en 40 minutes. Mais c'est une petite révision. Mais avant de terminer, on avait noté que malgré le fait que Samuel a rendu un témoignage devant Dieu et devant les hommes, incluant ses 2 fils, il avait laissé la bonne trace. Mais ses fils ne marchaient pas sur ses traces. Vous savez, on peut, par la grâce de Dieu, on veut vivre pour la gloire de Dieu, on fait, on pourrait dire, notre possible pour servir le Seigneur, puis on a toujours dans notre pensée que ceux qui sont en arrière nous regardent. Moi, je me souviens, au début de ma vie chrétienne, je regardais, il y avait des avec quelques personnes, il y en avait 7-8 devant moi, là, puis je les observais. Puis pour moi, c'était comme des professeurs que j'observais. À un moment donné, dans ma vie, j'ai réalisé que eux autres commençaient à partir, mais il y en avait beaucoup plus en arrière qui me regardaient. Et là, j'ai commencé à voir autrement. Alors Samuel, c'est un peu ce qui lui est arrivé. Durant sa vie, il a fonctionné, il a laissé la bonne trace. Ses enfants l'ont vu vivre tout le temps de sa vie, mais ils n'ont pas suivi ses traces. Peut-être que parmi vous, c'est des choses qui arrivent, hein? que dans les enfants ou dans des amis ou dans la parenté, les gens ne suivent pas, même si vous avez laissé la bonne trace. On est dans Samuel au chapitre 8, 1 Samuel chapitre 8. Et ce matin, j'aimerais revenir sur ce deuxième point que nous avions laissé en suspens. C'est que son fils Joël, qui n'a pas marché sur les traces de son père, qui n'a pas marché selon l'Éternel. Au verset 2, nous lisons, « Son fils premier-né se nommait Joël, et les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. » Ce qui est intéressant de ce que je vais vous apporter ici ce matin, c'est que lorsqu'on lit les généalogies, on s'aperçoit qu'il y a un petit-fils de Samuel, le fils du fameux Joël qu'on vient de voir, qui s'appelait Héman. Héman, c'est un homme impressionnant, un homme de valeur, un homme à imiter. Et comme texte, comme premier texte, comme on va regarder, c'est dans 1 Chronique, chapitre 6. Alors, si vous tournez dans 1 Chronique, chapitre 6, il y a plusieurs passages qui nous parlent de Joël, de Héman. Dans 1 Chronique, chapitre 6, c'est un des passages, un des premiers passages qu'on va, on va regarder ensemble. En Chronique, chapitre 6, et on pourrait lire à partir du verset 31. En Chronique 6, 31. Vous y êtes? On a rendu? Non? Oui? Non? Oui? Quand les têtes lèvent, c'est parce qu'ils sont rendus. Quand les têtes sont en bas, c'est parce qu'ils cherchent encore. En Chronique 6, 31. Voici ceux que David établit pour la direction du champ dans la maison de l'Éternel. Depuis que l'arche eut un lieu de repos. Il remplit les fonctions de chantre devant la tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon ait bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils, d'entre les fils des Kéatites, Héman le chantre, fils de Joël, fils de Samuel. C'est impressionnant, ça. On voit Héman, qui est le fils de Joël et le petit-fils de Samuel. Joël n'a pas marché sur les traces de son père, mais le petit-fils, lui, il a suivi. Il a suivi. Les Kéatites que vous voyez dans le passage ici, c'était les descendants de Coré, puisque Coré faisait partie de la famille des Kéates. Et quand on lit les psaumes, vous allez remarquer souvent des fils de Coré. Bien, vous allez voir en même temps, Héman et les fils de Coré ont vécu dans le même temps. Il y a d'autres personnages aussi qu'on va retrouver à ce niveau-là. Alors, Héman, c'est un musicien qui faisait partie de la chorale du temps que David était roi. Et si vous voulez des passages parallèles, bien, il y a 2 Chroniques 5-12, 2 Chroniques 35-15, qui nous relate à peu près les mêmes choses, la même idée. Alors, le premier point à retenir, c'est qu'Héman, petit-fils de Samuel. Deuxième passage, 1 Chronique, chapitre 15. 1 Chronique, chapitre 15, et nous allons lire verset 17. 1 Chronique 15, 17. Les Lévites disposèrent Héman, fils de Joël. Et le chant, verset 19. Le chante Héman, Asaph et Éthan avaient des cymbales d'airain pour les faire retentir. Alors, on peut voir que Héman devint un des meilleurs musiciens de David. Prochain passage, on va aller au chapitre 16. On parle de plusieurs personnes qui étaient impliquées à servir l'Éternel, choisies et désignées par David pour des tâches différentes. Il y en a qui étaient sacrificateurs, d'autres portiers, d'autres chants, d'autres musiciens. Verset 42. Auprès d'eux était Héman, Et Jedutun, ça aussi, lui, c'est un gars qui faisait équipe avec les fils de Corée, avec des trompettes, des cymbales pour ceux qui les faisaient retentir et avec des instruments pour les cantiques en l'honneur de l'Éternel. Alors, Héman, nous le retrouvons dans la deuxième génération, derrière Samuel, un homme qui a marché pour l'Éternel. Deuxième point à retenir, c'est que Héman, un homme engagé dans le service pour servir l'Éternel. Un homme qui marche, c'est un cadeau de la grâce de Dieu, tout simplement. Prochain passage, c'est 1 Chronique 25. 1 Chronique 25, et on va remarquer dans 1 Chronique 25, moi je vais vous faire un résumé, parce que ce sera long un peu à lire. Je vais faire un résumé des six premiers versets avec les points clés, comme on pourrait dire. Mais on va commencer au verset 1. Ça va peut-être être plus facile de suivre à l'écran, parce que dans vos Bibles, mais vous pouvez lire dans vos Bibles aussi. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Héman, en accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et lorsqu'on va au verset 4, on voit que Héman, les fils d'Héman, on a une autre génération. Héman, on a les fils d'Héman. Et si vous allez à la fin du verset 5, c'est marqué que Dieu avait donné à Héman 14 fils et 3 filles. Sortez pas votre calculatrice, vous êtes capable de calculer, ça fait combien? Héman avait 17 enfants. Grand-papa Samuel, étais-tu content? Vous pensez? Le verset 6, nous disons que tous ceux-là étaient sous la direction de leur père, c'est-à-dire Héman, pour le chant de la maison de l'Éternel, et avaient des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Pensez-vous que Samuel était vraiment fier de ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants? Peut-être qu'il les a connus. Je vais essayer de trouver l'âge de Samuel, je ne suis pas certain, c'était autour de 80 qu'il sera décédé, alors... Il a connu Héman, c'est certain. Probablement, il a connu, peut-être pas les 17, mais il en a connu quelques-uns, je ne sais pas. Je n'ai pas poussé assez loin mes recherches pour vous répondre là-dessus. Mais sûrement que Samuel était bien heureux. Il devait vraiment remercier le Seigneur pour ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Alors, comme troisième point à retenir, c'est que ces 17 enfants étaient impliqués pour le service de la maison de Dieu. Et là, il y en a encore quelques jeunes ici, puis moi, je vous encourage, les jeunes, c'est le temps de vous impliquer pour le service du Seigneur. Ce n'est pas nécessaire d'être dans la musique. Là, ici, on parle de musique, mais il n'y a pas juste la musique. Hein. Il y a dans l'accueil, il y a l'entretien du bâtiment, autant intérieur qu'extérieur. Il y a plein d'endroits où est-ce que vous pouvez vous impliquer. Ce n'est pas nécessaire d'être vu. Hein. Le Seigneur nous voit. Les récompenses ne sont pas ici, elles vont être de l'autre côté. C'est là qu'il faut envoyer, envoyer nos actions. Mais c'est le temps de s'impliquer, qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune, s'impliquer pour le Seigneur, il y a toujours des résultats. Alors, comme je disais tantôt, ça devait être encourageant et très spécial de voir ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants servir le Seigneur. On peut voir Samuel qui a laissé la bonne trace. Ça, c'était un petit peu notre message de janvier. Mais Joël n'a pas laissé la bonne trace. Il y en a qui ne laissent pas la bonne trace. Puis nous autres, on ne laisse pas toujours la bonne trace. On a à réfléchir là-dessus. Héman a laissé la bonne trace. Moi aussi, j'ai le privilège de laisser la bonne trace. Et vous aussi, vous avez le privilège de laisser la bonne trace. On peut remercier le Seigneur pour la vie de Samuel, toute une vie au service de Dieu. Ce qui a eu comme résultat que ses petits-enfants, ayant eu une certaine influence de leur grand-père, se sont consacrés au service de l'Éternel. Je sais pas, on ne sait pas comment que ça s'est passé, mais on sait que Samuel, qui lui a été impliqué, bien impliqué dans le service du Seigneur, a eu une influence sur son petit-fils Héman, puis peut-être d'autres aussi, et ses arrières aussi qui étaient là. Et c'est toute une bénédiction, j'imagine, de voir tes arrières, petits-enfants, là. Il me semble de le voir là, au chapitre 8, là, il dit, j'ai vieilli, mes cheveux ont blanchi, puis vous voyez les petits-enfants qui sont là, puis ça devait être quelque chose de très spécial. Vous allez vous dire, mais moi, je n'ai pas toujours servi le Seigneur, par exemple, je n'ai pas toujours suivi le Seigneur. Moi. J'en ai entendu 5 ans, 10 ans, 20 ans, je n'ai pas suivi le Seigneur. Peut-être. Mais pour le temps qui vous reste, vous pouvez servir le Seigneur. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de reculons dans la vie. On ne peut pas reculer. On ne peut pas recommencer ce qu'on dit souvent, là, si ça sera à refaire, on ne peut pas faire ça. Je n'ai pas essayé parce que ça ne se fait pas, mais j'aurais bien aimé ça. Sur bien des points, j'aurais bien aimé reculer en arrière et recommencer. Mais on ne peut pas. Mais à partir d'aujourd'hui, par exemple, là, je peux changer la situation. Pour le temps qu'il nous reste, on a toujours le privilège de donner aux autres notre exemple pour que le Seigneur soit glorifié. Quand les gens nous voient marcher dans la présence du Seigneur, quand les gens vous voient marcher, ils vont découvrir la nécessité de suivre vos traces. Vous savez qu'on entend souvent des témoignages, on a entendu beaucoup de témoignages de personnes qui... vous savez, ce matin, là, ça pourrait être plein ici. Là. Les chaises libres, là, il y en a plusieurs. Vous savez pourquoi ils ne sont pas là? Parce qu'ils sont déçus des chrétiens. À 98%, c'est la réponse. Ils sont déçus des chrétiens. C'est qui? C'est ceux qui sont ici, là. Ou ceux qui ne sont plus ici. Ou moi, ou peut-être, peu importe. Mais c'est la réponse classique, ça. Il y en a assez, puis il arrête. On a tous cette tendance-là. Hein? C'est la porte facile. On a tous cette tendance-là à prendre ce qui est le plus simple. Puis le premier qu'on laisse, c'est le Seigneur, puis la lecture, puis la prière, puis on laisse, puis c'est pas de notre faute, ça dépend des autres. C'est la nature humaine. C'est ça qu'Ève a fait dans le jardin. C'était pas de sa faute, c'était la faute d'Adam. Puis Adam, c'était pas de sa faute, c'était la faute de l'autre. Puis c'est toujours la faute des autres, puis ça a commencé là, puis ça va toujours continuer comme ça. Bien, là, on parle de génération. Samuel, Joël qui n'a pas marché, Amen qui a marché, les petits-enfants qui ont marché, ils ont tous servi le Seigneur. Mais en parlant de génération, est-ce que vous connaissez l'histoire du Québec? Plus ou moins, hein? Plus ou moins. Il y a un livre qui vient de sortir, là, mais on va vous le montrer tantôt. Ça parle de nos ancêtres. Ça fait 400 ans ici au Québec que les chrétiens, qu'on appelait les Huguenots, sont partis de France, sont venus s'établir ici au Québec. La persécution est venue, les catholiques sont venus, le roi marchait avec la religion. Puis ces chrétiens-là, bien, après quelques années, à un moment donné, ont disparu. Mais moi, je me suis toujours dit, quand ils sont arrivés ici au Québec, là, puis il y avait de la forêt, puis ils bûchaient pour faire une place pour rester. Là. Ils priaient, ce monde-là. C'était des chrétiens, ça. Puis ils devaient dire, « Seigneur, il y a une génération après nous autres qui va venir. Puisses-tu leur faire grâce qu'eux, au moins, ils puissent être reconnus dans cette Nouvelle-France, parce qu'ils appellent ça Nouvelle-France, dans ce nouveau Québec. » Puis il devait prier pour la génération qui s'en venait, puis il devait prier pour les autres générations, puis les autres générations. On est là, nous autres, ça fait combien de générations? 400 ans? As-tu 15, 20 générations qui ont passé? On faisait partie de leur prière. S'ils pouvaient être là aujourd'hui, ils seraient contents de nous voir. Hein? Ils disent, hey, on a prié, puis garde-moi dans ça. Il y a des milliers au Québec maintenant. Des milliers, mais maintenant au Québec. Moi, je crois qu'ils ont prié pour nous autres, puis ils ont prié pour les générations futures. Et comme je disais tantôt, si vous avez intérêt, ce livre ici, pourrait venir le regarder, puis j'ai apporté des feuilles, s'il y en a qui veulent le commander. C'est un livre de 466 pages, écrit en gros caractères, très intéressant à lire, facile à lire aussi. Il se détaille 24,95. C'est quand même pas dispendieux pour cette qualité de livre. Avec les taxes, ça fait 26 $. J'ai communiqué avec Anita Demers qui a écrit ce livre-là. Je ne suis pas parent avec les démarches. J'en ai parlé à ton père, puis il dit, je ne connais pas. Ça ne s'écrit pas pareil aussi. Mais peut-être que plus loin, oui, ça se rejoint, c'est sûr. Mais j'ai écrit à la dame, elle a dit, pour une église, elle a dit, je ferai un escompte de 20%. Alors, vous sauvez, vous économisez un bon 5 $ là, en ce moment-là. Là, il est question de transport, mais... C'est un livre qui reviendrait peut-être à 20 ou 25 $ tout dépendant du transport qu'on va avoir à assumer. Alors, on a Samuel qui a marché sur les traces du Seigneur, qui a laissé la bonne trace à tous ceux qui étaient là. On a Éman qui, lui, a vu tout ça. A même travaillé, lui aussi, pour le Seigneur, mais il ne suivait pas la bonne trace parce qu'il avait un peu de fraude dans sa vie. Est-ce qu'il était sauvé ou pas sauvé? On ne sait pas. Il y a Éman, lui, on a un très bon témoignage de lui, et même ses 17 enfants ont suivi et ont servi le Seigneur dans le temps de vous savez, la période que David était roi, c'était une période merveilleuse. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde impliqué là, dans cette période-là. Mais Éman n'était pas seul. Éman n'était pas seul. Il n'était pas seul à avoir servi dans le service de Dieu. Il y a Jonathan, c'est un autre personnage qu'on pourrait étudier, qui faisait équipe avec Éman. On a les fils de Coré. Hein, Coré, ben, ses fils, ça doit être ses petits-fils, lui aussi. Là. Peut-être, je ne sais pas combien de générations après. Mais en tout cas, c'est pour dire que là aussi, on voit dans les générations, qu'il y a des générations qui s'en viennent, qui se sont impliquées ou qui vont s'impliquer. Peut-être après nous autres, là, je ne sais pas si le Seigneur n'est pas revenu dans quelques générations, il y a de nos enfants, des petits-enfants qui vont s'impliquer. Voyez-vous, Jonathan aurait écrit le psaume 39, le psaume 62 et le psaume 77. Et les fils de Coré ont écrit les psaumes 42 à 49, psaumes 84 et 85, et à 85 et 87. On a Éman qui a écrit le psaume 88. Il était jusqu'à. Il faisait équipe. Moi, je pense qu'il faisait équipe avec Jonathan, puis les fils de Coré, puis c'était tout ensemble, puis ça méditait ensemble, puis ils ont écrit des psaumes. Avec David, qui a écrit plusieurs psaumes aussi. On les voit au psaume 88, psaume des fils de Coré, au chef des chants pour chanter sur la lutte, sur la flûte, cantique d'Éman. Ezrachit, c'est probablement fait partie d'une famille qui était reconnue à l'époque. Alors, Éman faisait équipe avec les fils de Coré. Il a probablement médité avec eux. Il a probablement participé à écrire d'autres psaumes. Son nom est marqué dans le psaume 88. Mais il a peut-être écrit aussi le psaume 84. Hein? « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Puis, ils ont passé des heures, eux autres, à chanter, à pratiquer pour servir le Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous. Où est-ce que vous en êtes rendu? Comment vous voyez ça? C'est intéressant de voir comment Samuel a amené cette influence-là. Et s'il n'a pas réussi à donner une bonne influence à ses propres fils, en tout cas les petits-fils, les petits-enfants, eux autres l'ont eu. Mais comment ça s'applique à notre vie, ça, aujourd'hui? Si vous regardez tout ce que c'est que vous avez fait ou que vous n'avez pas laissé une bonne trace, que là, on peut se culpabiliser puis dire, « Ah, ben moi, là, regarde, ils vont aller ailleurs. » Mais ce n'est pas la réflexion qu'on doit avoir. Moi, j'ai à lutter, puis vous avez tout à lutter là-dessus. On a dit, « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il faut que ma vie compte. » Puis il faut que ma vie compte tellement que les autres qui vont me voir vont dire, « Moi, je voudrais être comme ça. » Vous savez, moi, quand j'ai entendu l'Évangile, le type qui m'a annoncé l'Évangile, c'est un type qui ne suivait pas le Seigneur. Il avait délaissé les réunions. Il allait d'un petit groupe qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai su ça après que je me suis converti, parce qu'au début, je ne savais pas c'était quoi. Mais il m'annonçait l'Évangile, Mais la quatrième fois que je suis allé le voir, savez-vous ce qui m'a impressionné? C'est lui. C'est sa façon dont il parlait du Seigneur. À un moment donné, moi, j'ai allumé, j'ai dit, ce gars-là, il y a quelque chose que je n'ai pas. Mais je n'étais pas capable de saisir c'est quoi. Et dans la semaine, le Seigneur me l'a montré, c'était quoi. Et par la suite, j'ai connu son histoire, mais c'est pas grave. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir connu l'Évangile, puis j'ai pu le partager à d'autres aussi. Alors, ce qui est important pour les gens, ce que je veux apporter là-dessus, c'est que il faut que notre vie compte, que les gens voient, en nous voyant, ils disent, cet homme-là, cette femme-là, n'est plus comme avant. Il y a quelque chose de différent. Puis, quand les gens voient ça, là, il y a du résultat. Il y en a quelques-uns, peut-être, qui ont connu M. Stafford? Comment il s'appelait? Stanley Stafford, c'est ça. Il y en a plusieurs, ils l'ont connu ici? Oui, toi tu l'as connu, OK. Toi aussi, tu l'as connu. Vous autres aussi? OK, oui, c'est... Bon, Stanley, il reste à côté de chez nous, c'est mon voisin. Puis il était venu chez nous pour, nous, ben, pour quelque chose d'autre, mais en même temps, ben, il nous dit, regarde, t'as des nouveaux voisins, fait que... Il ne nous a pas dit qui il était, lui-là. Moi, je savais que c'était un Anglais, c'est tout ce que je savais. Par son accent, c'est facile à déterminer. Mais après qu'il était parti, nous autres, on s'est dit, c'est drôle, ta famille-là, ils ont quelque chose de spécial. À part d'être Anglais, ils ont d'autres choses. C'est plus tard, il est arrivé, ben, nous autres, ça faisait peut-être un mois et demi qu'on était sauvés, il y avait eu un baptême. Et alors, le dimanche soir, on était au baptême, puis c'était plein. Et son fils, le plus vieux, que je ne me souviens plus de son nom, tu t'en souviens peut-être-tu? Le plus vieux de son gars? C'est le monsieur, ça, Stanley. Ah oui? Ah, ça se peut. En tout cas, le plus vieux, il était là à Réunion. Comment? C'est ça. En tout cas... Il était là ce soir-là, puis là, il nous a vus. Puis là, il est venu nous voir, parce que, comme voisin, moi, c'est la première fois que je le voyais là. Et c'est là qu'on a su que c'était une famille de chrétiens, puis, mais qu'eux autres avaient délaissé un peu. Puis là, suite à ça, ils ont recommencé. Regardez, c'est longtemps après que j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, juste le fait que j'étais un nouveau sauvé, puis qu'on venait, ça faisait peut-être 3 semaines, 1 mois qu'on venait aux réunions, eux nous ont regardé vivre, ils ont dit, on y retourne. C'est impressionnant, c'est longtemps après que j'ai réfléchi à ça. Tu sais. C'est pour dire que les gens nous regardent, parce qu'eux autres vont dire, nous autres, ça fait longtemps qu'on connaît le Seigneur, puis on va plus aux réunions. Puis eux autres, des jeunes sauvés, puis ils sont là tous les dimanches matin, le dimanche soir, le mercredi, ils sont toujours là. Alors, ils ont recommencé, puis même, ils nous ont offert de nous prendre en passant, puis on faisait du covoiturage à un moment donné. Alors, c'est simplement pour vous rappeler que notre influence, même si on ne parle pas, notre influence, les gens, ça leur parle. Ma soeur m'a appelé hier, elle voulait qu'on déjeune ensemble ce matin. Ah, je lui ai dit, ça ne donne pas, elle dit, demain matin, elle dit, c'est moi qui apporte l'enseignement là-bas. Ah! Elle vient d'avoir le message. Moi, je me dis, c'est la même chose que Noé, quand il construisait son arche. J'imagine, au bout de 50 ans, là, Noé ne va pas dire aux gens, « Hey, il va pleuvoir! » Ça faisait tout de bien 200 fois qu'il leur disait. Mais quand il arrivait, puis les gens entendaient. Il est sérieux, lui? À chaque fois qu'il entendait un coup de marteau, ça leur rappelait le message. Il y a plein de choses qu'on fait, juste notre façon d'agir, notre façon de se comporter. On n'a pas besoin de parler. Ça leur rappelle le message. C'est automatique. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Vous savez, on a à prier pour nos générations, les générations futures, prier pour les générations à venir et continuer à laisser la bonne trace. Vous avez compris? Ça, là, il faut mettre ça dans notre carquois, comme on dirait. Il faut emmener ça avec nous autres, prier puis laisser, continuer à laisser la bonne trace. Je vais terminer en prière, puis je vous demanderai, s'il y en a qui s'intéressent à avoir le livre, j'ai apporté des feuilles, puis simplement qu'à écrire votre nom et votre numéro de téléphone, puis on placera une commande, puis on verra comment il va savoir ce que... Pardon? Lui, ce livre-là explique comment les premiers chrétiens sont arrivés ici au Québec. J'en ai deux comme ça, il y en a un autre. En fait, ce que les historiens nous ont apporté depuis bien des années, là, vous lisez des livres sur l'histoire du Québec, qu'on a appris à l'école, etc. Il était menacé par le clergé de ne pas dire toute la vérité. Mais il y a lui, puis il y a un autre, Donald Gingras. Eux autres, maintenant, il n'y a plus cette autorité cléricale qui est là, qui demande de se taire. Alors, aujourd'hui, la vérité est dite et écrite. Et c'est ce qu'on trouve. C'est pour ça que vous avez le titre « Vérité qui dérange ». Parce que là, aujourd'hui, on dit la vérité. Alors, ça va déranger. C'est ça. C'est un peu ça. Ça nous dit l'heure juste sur tout ce qu'on n'a pas su, c'est révélé dans ça. Il donne un paquet de détails très intéressants. Moi, j'ai lu ce livre-là, puis je veux le relire aussi. Mais il y a Donald Gingras, c'est un autre qui est récent aussi, là, qui est très intéressant à lire aussi. Il le présente d'une façon différente, mais ça se rejoint les deux, l'histoire du Québec. Ça répond-tu pas mal? Très intéressant. Alors, on va prier, remercier le Seigneur, puis il nous demande, dans sa grâce, qu'on laisse la bonne trace derrière nous. Seigneur, oui, on veut te remercier ce matin pour ta grâce envers nous. Merci, Seigneur, pour ces personnages bibliques qu'on a. Samuel, qui a été un homme qui a donné toute sa vie. On a l'exemple de son fils qui n'a pas marché. Ça nous rappelle que nous autres aussi, des fois, on ne marche pas comme il faut. On a Eman, qui était un personnage très important, qui lui a marché. Même ses petits-enfants, ses enfants ont marché avec lui. Et Seigneur, on veut te prier maintenant pour tous ceux qui sont en arrière de nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces, peu importe, Seigneur, c'est tous des personnes qui ne te connaissent pas. Il y en a qui te cherchent actuellement. Puis on veut te remercier, Seigneur, pour nos ancêtres qui ont prié pour nous. On veut te rendre grâce à ce que tu t'es révélé à nous, tu nous as fait connaître ton plan de salut. Et merci qu'aujourd'hui, on est là, puis on peut laisser derrière nous une trace qui va porter du fruit. Père, c'est une grâce très spéciale qu'on te demande, et c'est au nom du Seigneur Jésus qu'on t'en prie. Amen. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez voir le livre, venez voir ça. C'est gratuit.